Il y a Michael Moore qui vient de gagner la palme à Cannes. En dépit de toutes les critiques qu'on entend sur les radios, qu'il est en France, qu'il ne veut rien savoir, qu'il n'a pas sa place à Cannes, il a gagné. Il a gagné. Et puis ça veut dire que, quand même, les gens, ils ont pigé quelque chose. Et là, tous les gouvernements, tous les gens protégés du monde, quand ils réalisent que les gens commencent à comprendre vraiment quelque chose, plein de gens commencent à comprendre quelque chose, qu'est-ce qui va nous tomber sur les têtes?
Je voulais vous dire tout simplement que je suis très heureuse aujourd'hui parce que les bonnes nouvelles sont rares et que le Festival de Cannes aujourd'hui a décerné une palme d'or qui est importante. Je vous l'avais écrit, mais je préfère vous le dire comme ça de vive voix à la radio. Parce que je viens d'avoir des amis américains au téléphone qui sont très heureux aussi. Et je voudrais donc que vous sachiez qu'il y a une autre Amérique et que derrière Michael Moore, derrière ses propos, il y a toute une autre Amérique. Il faut l'écouter parce que plus que jamais, elle a besoin de votre estime. Au revoir.
Bonjour, j'étais allongée sur mon lit au soleil car se couchait tard nuit et j'ai écouté ces belles poésies, ça fait du bien. Voilà, donc j'habite à Marseille et je vais prendre mon petit livre de Jacques Prévert et aller pique-niquer avec les copains et puis on va lire des belles choses en regardant la mer. Au revoir.
Merci beaucoup, merci pour Jacques Prévert. Vraiment, c'est un régal ce soir. Comme quoi, il faut écouter, il faut toujours écouter, on entend de belles choses. Mon plus grand bonheur a été d'entendre à l'école maternelle ma petite fille qui a aujourd'hui 20 ans. Elle avait 4 ans quand elle récitait du Prévert et j'en étais enchantée. Donc, un merci, un grand, grand merci. Voilà, au revoir, je suis Paul.
Salut, c'est Jean-Claude d'Épinal. Il est dérangeant, il fait la radio des gens. Et chacun et tout le monde peut danser sur ses ondes. Et j'aboie et je crie de là-bas si j'y suis. Et mon plaisir et ma colère trouvent toujours son répondeur ouvert. Alors c'est comme un grand magasin, on se découvre des nouveaux voisins. Il est dérangeant, il fait la radio des gens. Il va chercher sous l'apparence des événements d'autres nuances. Il y a tant à faire dans les décombres de ce que les médias mettent à l'ombre. Jour après jour, le scoop dictate Saint-Féodant à l'audimat. Il est dérangeant. Il fait la radio des gens. Et d'un seul coup, notre univers, où presque tout marche de travers, est illuminé de Prévert. Un arc-en-ciel qui dure une heure. Faut pas laisser passer ce bonheur. Allez, continue d'être dérangeant en faisant la radio des gens.
C'est gentil, hein, ce poème-là, mais ça se partage avec toute l'équipe de la Bastille. En tout cas, le Prévert, ça vous a plu, hein. Alors, il y a d'autres messages, sur un autre ton, hein, beaucoup moins épanoui, beaucoup moins heureux, que vous allez entendre maintenant. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37, et ce que j'oublie de dire chaque jour, c'est mille excuses à ceux qu'on ne peut pas passer, mais on n'a pas des heures et des heures. Donc voilà, il y a ceux qui disent, ah, il va me le passer mon message. Bah, ben oui, mais ce sera peut-être demain, ce sera peut-être un autre jour, puis ce sera peut-être jamais. Voilà, c'est le jeu. Aujourd'hui, on va à Vénissieux, où l'imam est de retour. Le retour de l'imam de Vénissieux, c'est une enquête de Thierry Scharf. Auparavant, autre message.
Monsieur le journaliste de France Inter, supposons qu'au mariage de votre fille, en pleine fête, un hélico lâche un missile sur la noce. 42 morts, des tas de blessés, votre famille décimée, vos amis disparus ou handicapés. Appelleriez-vous cela une bavure ? Non, bien sûr, ce terme vous paraîtrait incongru, déplacé, indécent, obscène même au regard de votre douleur. C'est pourtant ce terme de bavure que vous avez employé lorsqu'une noce irakienne a été bombardée par l'armée américaine. Ce même terme que vous employez si souvent quand il est question de délits ou de crimes commis par des militaires ou des policiers. Le mot n'est pas innocent. Le langage journalistique s'est laissé coloniser par le langage des militaires. Pour ces professionnels-là, une bavure n'est qu'une conséquence fâcheuse, selon Petit Robert, d'un travail nécessaire. La bavure, c'est comme les dégâts collatéraux, ça sous-entend une certaine fatalité, Tout le monde sait qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La bavure, ça minimise, ça cache le sang et la douleur. Ça passera si besoin et avec quelques excuses d'un gradé. Réalisez-vous qu'en jouant à ce petit jeu linguistique, vous rendez complice de la banalisation du crime? Mais au fait, monsieur le journaliste, avez-vous réfléchi un jour, un seul jour, à l'utilisation que vous faites du langage? Pensez-y, le jour du mariage de votre fille. Bon, c'est Daniel, de Gardanne.
Bonjour à tous, Malherbe du Havre. Moi, je voudrais savoir s'il y a un politique français, de gauche ou de droite, assez courageux pour protester énergiquement contre le baltrap assassin qui sévit actuellement en Palestine. Je commence à en avoir vraiment gros sur la patate. Allez, bonsoir.
Il se passe des choses à Gaza en ce moment. Il y a des circonstances dans l'histoire qui justifient le nettoyage ethnique. Cette phrase est tirée d'une interview de Benny Morris dans le Haaretz du 9 janvier 2004, citée dans Le Monde diplomatique. Benny Morris est un historien internationalement reconnu pour la qualité de son travail. Et son travail est effectivement de qualité. Il a le mérite de pratiquer l'impérialisme, le colonialisme honnête. Trop honnête sans doute pour certains. Est-ce vraiment un mérite d'ailleurs? Il y a des circonstances dans l'histoire qui justifient le nettoyage ethnique. Je ne comprends pas, ou alors je ne comprends que trop bien. J'aimerais bien que ceux qui expliquent le sionisme à leurs potes m'expliquent ce sionisme-là. Je répète, il y a des circonstances dans l'histoire qui justifient le nettoyage ethnique. Salut, c'est Charles de Paris.
Les journalistes sur place disent que les escaliers du seul hôpital de Rafah dégoulinent de sang. Abraham Bourg parle de bain de sang en parlant de l'opération arc-en-ciel dans les nuages. L'heure est très grave. Mais on voit ici se répéter ce qui s'est passé à Jenin, si pas pire. Prenez vos plumes, décrochez vos téléphones, lancez des emails aux politiques, aux journalistes, aux associations. Il faut agir tout de suite et arrêter l'hypocrisie de nos dirigeants. L'heure n'est plus à la diplomatie.
Bonjour, c'est Constance. Je voulais profiter de ce répondeur, non pas pour intervenir sur une émission quelconque de la semaine dernière, mais pour dire un très grand merci à un couple de parents qui a eu la très grande générosité de faire un don de sperme grâce auquel, la semaine dernière, mon mari et moi, nous avons pu voir sur l'écran d'un appareil d'échographie un petit être auquel je vais donner naissance au mois de décembre. Et sans cette générosité, eh bien, nous serions un couple stérile, un point c'est tout. Et je trouve que c'est fantastique qu'il y ait quand même quelques personnes en France qui ne soient pas égoïstes et qui nous permettent d'avoir ce bonheur d'être parents. Comme ce sont des anonymes qui font ces dons, je souhaiterais pouvoir rester anonyme et juste leur dire merci.
Voilà, voilà la fête de l'eau. Dans le village, c'est rigolo. On est tous des petits écolos. On sait que la nature, c'est beau.
Bonjour, c'est Zoé de l'école d'Alain, bah, c'est près de Nancy. Alors, on fait la fête de l'eau le 5 juin. Alors, c'est la fête des enfants qui font des émissions cache-cache micro, radio déclic. Alors, il y aura au moins 2000 enfants en liberté dans notre village. On invite tous les gens qui ont des noms qui mouillent à venir nous rejoindre. Les Monsieur Rivière, les Madame Fontaine, les Mademoiselle Arrosoir, Tuyot, Goutte, Louche et Pluie. Et même Daniel Mermet. On vous attend pour une grande bataille d'eau le samedi 5 juin. Bye bye.
Des trucs de partout dans les immeubles maintenant. Vous avez vu, il y en a partout. Dans toutes les tours, il y a des trucs pour faire prier. Qu'est-ce qu'ils font dans les tours? Ils prêchent quoi?
Ben nous, je trouve qu'il ne faut pas frapper les femmes. Vous voyez, on doit tout le respect pour les aux femmes, même si c'est dans leur courant, mais il n'a pas à le dire à tout le monde, n'est-ce pas? C'est pour encourager les autres à prendre cette voie.
Je pense sincèrement que on est en présence de beaucoup d'indications qui tendent à laisser penser qu'on est en présence d'une manipulation.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf, la basse, et j'y suis, le retour de l'imam.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour. L'avocat de l'imam de Vénissieux dépose deux recours contre son arrêté d'expulsion. Cet imam, pour qui la femme n'est pas l'égale de l'homme, est au centre de rétention de l'aéroport de Lyon dans l'attente d'un vol direction l'Algérie. Beaucoup de réactions ce matin après la décision prise par le gouvernement d'expulser l'imam de Vénissieux pour qui la femme n'est pas l'égale de l'homme. Aucun motif, même religieux, ne justifie qu'on porte atteinte à l'intégrité et à la dignité de la femme, dit une représentante du Haut Conseil à l'intégration. La véritable sanction doit être celle de la communauté. Les associations doivent licencier de tels imams, selon le président de la Fédération nationale des musulmans de France. Le Conseil français du culte musulman qui représente l'islam en France n'a pas officiellement réagi, mais son président Dalil Boubaker se dit excédé par la chasse médiatique aux imams mal embouchés. L'islam n'est pas une religion qui bat ses femmes. Certes, le conseil doit prendre à bras le corps le problème de la formation des imams, mais les pouvoirs publics doivent aussi nous aider. À l'origine de la polémique, les propos du religieux dans un entretien accordé au mensuel Lyon Mag. Extrait choisi, question: êtes-vous pour la lapidation des femmes? Oui, car battre sa femme est autorisé par le Coran dans certaines conditions, notamment si la femme trompe le mari.
Au nom de Dieu, au nom de Dieu, Abdelkader lutte contre la musique et le sexe, qui sont, comme vous le savez, des choses pleines de dangers. Et ça fait 25 ans qu'il prêche la même chose. Abdelkader est imam. Lutter contre le sexe ne l'a pas empêché d'avoir pas mal d'enfants, 16 enfants et quelques femmes, deux au moins, voilées, bien sûr. À Vénissieux, où nous sommes avec Thierry Scharf aujourd'hui, l'imam est connu, Abdelkader Bouziane, il est connu dans la région depuis 25 ans. Il prêche sans problème un islam rigoriste, c'est-à-dire le vrai, le pur, l'ancien, tel qu'on le pratiquait au temps heureux du prophète aux alentours du 7e siècle. Et puis, quelques siècles plus tard, donc le 3 avril dernier, un mensuel lyonnais, Lyon Mag, publie un entretien avec l'imam. On pose à l'imam la question suivante: êtes-vous pour la lapidation des femmes? Réponse: oui. Car battre sa femme, c'est autorisé par le Coran. Fin de citation. Et attention, personne ne relève cette phrase. Personne ne relève cette phrase. Aucun lecteur, aucun journaliste. 15 jours plus tard, on ne sait trop comment, l'article arrive au journal Le Figaro. Et là, soudain, ça démarre et ça va très vite. Ministère de l'Intérieur, Garde des Sceaux, et le 21 avril dernier, Abdelkader est arrêté et expulsé vers l'Algérie en urgence absolue. Mais voilà que c'est pas trop légal. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal administratif qui considère que tout ça n'est pas très légal. Alors, 2 jours plus tard, le juge des référés suspend la procédure pour, je cite, « doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion ». La suite, vous le savez, vous la connaissez, samedi dernier, l'imam est revenu, Abdelkader Bouziane, imam de Vénissieux, est revenu à Vénissieux. C'est pas pour autant qu'il est sorti d'affaire, mais cette affaire, qui est présentée maintenant comme une affaire ténébreuse, nous a intéressés. Avec Thierry Scharf, on est allé à Vénissieux enquêter. Enquêter pourquoi? Pour une raison très très simple, c'est que l'islam en France pose des questions très simples, très prévisibles, celle de l'incompréhension, celle du fantasme, celle des arrière-pensées, des
des mentalités forgées, on a déjà évoqué ces questions, forgées par des siècles de prévention à l'égard de l'islam, à l'égard du mahométan. L'histoire est dans tous les esprits, mais dans le fond des esprits, c'est-à-dire dans des couches souvent inconscientes des esprits qui dictent des comportements et ont construit, ont fabriqué des préjugés dont nous aurons beaucoup de temps, dont il faudra beaucoup de temps pour se défaire. Néanmoins, il y a ces propos qui sont quand même pas très très galants à l'égard des femmes. Les lapider, c'est pas très gentil. Les battre, c'est pas très très aimable non plus. Qui est cet imam? Que veut-il? Que représente-t-il? Faut-il avoir peur de ce genre de grand méchant imam? Eh bien, c'est ce qu'on a voulu savoir et c'est notre sujet jusqu'à 18h, là-bas si j'y suis, le retour d'Abdelkader.
Alors vous attendez son retour ?
Pas du tout. C'est normal qu'on l'a, d'une certaine manière, qu'ils ont pris la responsabilité de le renvoyer dans son pays. Je suis pas d'accord, moi, qu'un homme tape une femme.
Vous êtes pas musulmane ?
Non, pas du tout. J'habite les Maghettes, mais c'est pas pour ça que je suis d'accord que les hommes disent qu'on peut taper une femme, même s'ils sont musulmans. Une femme, elle a droit au respect comme l'homme, il a le droit au respect. Pour lui, c'est tout est permis parce que je comprends pas là. Mais bon, c'est vrai que quand dans des secteurs difficiles, que les jeunes déjà, ils sont quand même assez influençables. Je trouve pour des paroles pour un imam, je trouve c'est quand même diabolique.
C'est diabolique.
Oui.
Diabolique. Voilà, il est diabolique, l'imam. Ça y est, le voilà diabolisé, satanisé. Est-ce que c'est le but recherché par les autorités? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On est à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, célébrissime quartier. Vous vous souvenez, en 1983, la marche des beurs. Vénissieux, 57 000 habitants. C'est donc une grosse banlieue de Lyon, et dont les problèmes sont connus. C'est le lieu même, quand on dit les quartiers sensibles, les jeunes de banlieue. Souvent, on imagine que ça se passe dans ce décor, qui évidemment ne correspond pas tout à fait aux fantasmes qui ont la peau dure. Il faut rappeler que il y a deux jeunes de Vénissieux qui sont à Guantanamo, dans les conditions que l'on sait et que l'on découvre peu à peu, et qui font qu'il est bien possible que ces jeunes soient bientôt renvoyés à leur foyer, sous certaines conditions, probablement. C'est une affaire, celle-là aussi, qui est secondaire, mais dont on a beaucoup parlé dans ce quartier. Mais ce dont on parle aujourd'hui, évidemment, c'est de l'imam.
Vous le connaissiez, l'imam ?
Je suis déjà allé là-bas à la mosquée. Il a jamais dit de truc radical. C'est la religion et puis c'est tout, stop. Il y a rien eu de radical. C'est en ce moment là tout. Quand t'allumes le journal, obligé, il faut qu'il y ait des trucs sur l'islam, parce que pourquoi? En ce moment, l'islam fait vendre, non? C'est ça ou pas?
Vous êtes plusieurs à être allés à ces prières.
Il n'avait pas de discours radical. Il disait les choses vraies de l'islam. Il disait j'allais faire la prière. Il disait pas de violence, rien. Mais il a dit deux trois choses que certaines personnes ont déformées.
Soit ils ont été déformés, soit ils ont été sortis de leur contexte.
Faut être vrai. C'est la vérité. Faut être culotté pour dire ouais lapider une femme en sachant que ça va être exposé à des
tu sais, des lecteurs, tu sais, des personnes qui lisent. Il y a bien des rabbins qui sont extrémistes. Il y a bien des prêtres qui sont extrémistes. D'accord avec moi? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas?
Parce qu'en religion,
l'extrême, elle est partout. Pourquoi? Dans tout ce que tu veux. Pourquoi on parle que de l'islam? Parce que là, en ce moment, il y a une propagande qui se forme contre l'islam.
Et il y a deux jeunes, là, qui sont à Guantanamo, là. Vous les connaissiez? Vous les connaissiez, Mourad et...
On les connaissait.
Il était à l'école avec moi, Mourad. Et moi, je vous dis que il n'aurait pas pu faire du mal à une mouche. À une mouche, il n'aurait pas pu le faire.
Ils n'ont même pas été jugés. Ils n'ont pas été jugés. Normalement, il y a un jugement. Ils n'ont pas été jugés. Regardez, la preuve, ils les relâchent. Si ça aurait été vraiment, ils les relâchent pas, non? Regardez, la preuve, c'est pas fondé. C'est une agression. En ce moment, ce qui se passe, c'est une agression. On nous agresse. C'est la vérité, on nous agresse. On peut encore rester neutre, mais plus le temps il va arriver, plus on va devoir prendre un parti. Parce que c'est le début.
C'est quoi le prendre un parti?
Les oppresseurs et les oppressés. Hein, les oppresseurs. L'Amérique, la coalition. Les oppressés, les musulmans.
Voilà, la guerre des civilisations version Vénitieux. Lapider une femme, c'est pas bien. Mais enfin, voilà, il y a une agression. C'est ce qui ressort des propos de ces jeunes qui, attention, ne représentent pas tous les jeunes, ne représentent qu'eux-mêmes, c'est-à-dire 3-4 garçons rencontrés à Vénitieux. Alors, un personnage important dans cette affaire, c'est le maire de Vénitieux, André Gérin, qui est extrêmement précis.
Monsieur Gérin, vous êtes le maire de Vénitieux et vous avez joué un rôle décisif dans l'expulsion de l'imam Abdelkader Bouziane, puisque c'est vous qui avez envoyé un courrier le 19 avril au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, où vous vous indignez des propos qu'il a tenus, cet imam, dans une interview au journal Lyon Mag, en début avril, où il justifiait entre autres la lapidation des femmes, la polygamie, etc. Alors, vous connaissiez cet imam, puisqu'il officiait dans votre ville. Pourquoi subitement une telle réaction?
D'abord, je ne connaissais pas cet imam. Je ne connaissais pas personnellement. Quand j'ai eu connaissance de l'interview, ce qui m'a fait réagir, d'abord, ses propos qui ont pour moi un contenu criminel, en dehors des civilisations, ça c'est clair, net et précis. Pour moi, ce sont des propos qui doivent être condamnés par la loi. Et ce qui m'a choqué devant cette interview, c'est la non-réaction, voire l'indifférence des institutions de la République et qui ne se passait rien.
Et pour vous, cet imam représente un danger?
Parler de lapidation, tel que c'est dit, ce sont des propos criminels. Et puis ce qui est dangereux, de mon point de vue, c'est que si ces propos font partie des prêches qu'il fait, qu'il est censé faire, eh bien, c'est dangereux du point de vue de la pollution, je dirais, comment ça peut pourrir la tête de gamins dans les quartiers aujourd'hui. Pour moi, il y a deux jeunes qui sont détenus à Guantanamo de Vénitieux. Ce qui est important pour moi, c'est que, d'abord, on sache pourquoi ils ont été arrêtés et où ils ont été arrêtés, et puis qu'ils soient rapatriés en France, et que l'on sache s'il y a derrière tout cela, des réseaux, des têtes de réseaux, mafieux, terroristes ou autres. Et moi, je veux comprendre, d'une certaine manière, qui pourrit la tête de nos gamins. Depuis un certain nombre d'années, notamment dans les collèges et lycées, il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration musulmane qui contestent les cours d'histoire, des cours de philo, de sciences nat, de biologie, etc. Donc, il y a toute une dérive pernicieuse qui est entretenu par un certain nombre de pseudo-religieux. Et quand je vois que c'est Monsieur Bouziane fait des stages annuels en Arabie Saoudite, et que l'on sait que l'Arabie Saoudite, c'est à la fois le prosélytisme, c'est à la fois l'antisémitisme, et que l'Arabie Saoudite est une des principales tirelires du terrorisme international aujourd'hui, je me dis, il faut que les autorités françaises, eh bien, elles assument leurs responsabilités, et c'est le sens de la démarche que j'ai fait auprès des deux ministres.
Frères et sœurs musulmans, implorez en vous prosternant, le tout clément, le tout puissant, Allah, Allah le plus grand, nous descendons tous d'Adam, nous sommes tous musulmans, nous avons fait le serment d'adorer le tout puissant.
Islamalgam, c'était le titre qu'on avait donné à une série de reportages, une sorte de voyage dans l'islam en France, et on avait tenté de montrer avec Thierry la diversité des expressions de l'islam dans notre beau pays. Alors, il faudrait pas tout réduire et tout ramener à l'islam tel que le conçoit Abdelkader Bouziane, l'imam de Vénissieux. Il faudrait rassurer un peu peut-être le maire de Vénissieux, qui a une certaine tendance à amalgamer, mais on peut espérer qu'effectivement les enquêtes permettront de désamalgamer, de faire la différence entre tous ces éléments. Voilà quelqu'un qui peut nous éclairer, c'est celui qui dirige la grande mosquée de Lyon, qui est le président du conseil du culte musulman pour la région Rhône-Alpes, Kamel Kaptane.
Vous le connaissiez, cet imam Bouziane, là. Est-ce que vous le trouvez dangereux?
Ce que je peux dire, c'est que je ne l'ai jamais entendu prêcher la violence. Et j'en veux pour preuve, lorsqu'il y a eu, en février dernier, l'organisation d'une manifestation pour le port du voile, certains sont allés le voir pour lui dire de mobiliser, d'appeler à la manifestation. Il a refusé, il a dit ceci: on ne s'oppose pas à la puissance publique, Dieu l'interdit. Il est salafiste, comme d'autres sont d'obédience de Monseigneur Lefebvre, ou comme d'autres sont Lubavitch. Il a ses convictions, c'est un traditionnaliste, c'est quelqu'un qui va appliquer le Coran à la lettre. C'est sa vision à lui qui lui appartient et qui n'est pas effectivement le cas de la majorité des musulmans. Mais je pense que quelqu'un disait avant nous: je ne partage pas vos idées, mais je ferai en sorte que vous puissiez les exprimer. Il les exprime, l'essentiel c'est qu'il les exprime non pas dans la violence, mais voilà, je pense que c'est là qu'il s'agit pour nous d'apporter les réponses à ces idées et de faire en sorte de dire que ces idées ne sont pas adaptées à notre siècle.
Quelle est l'influence, l'implantation des salafistes sur la région?
Bon, elle est très minime, je crois qu'ils étaient là.
Parce qu'il a dirigé quand même une des grosses mosquées, la Duchère, Villefranche.
D'ailleurs, il est parti de Villefranche, il est parti de la Duchère, il était installé à Vénissieux, et il avait toujours derrière lui le même auditoire et les mêmes personnes qui le suivaient un peu partout. Mais je pense pas qu'ils aient une implantation très forte dans la région. Ils sont assez marginaux sur le côté, sur ces questions-là. C'est vrai que...
Vous, ça vous effraie pas?
Je ne dis pas que ça ne m'effraie pas, ça me pose question, parce que la nature a horreur du vide. Et ces gens-là occupent le vide quelque part, là où ils se trouvent.
Et quel vide?
Le vide, l'absence d'imams formés et d'imams qui puissent répondre aux questions de société qui se posent actuellement à notre société ici en France, et qui puissent être compris et écouté des jeunes. Beaucoup de jeunes sont plus séduits par le retour aux sources qu'on leur promet, etc., et sont beaucoup plus attirés. Or, à l'heure actuelle, tous nos imams viennent en grande partie des pays d'origine, et ils viennent avec leur vision à eux de la conception de vie qui ne correspond pas à notre vie ici.
Ils veulent un procès de l'islamisme en France. Charles Martel les a battus qu'à moitié, hein. Pas à moitié, à moitié.
Oui. Oui, bon. Alors, ce qu'on nous explique là, ce que Kamel Kabda nous explique, c'est qu'en fait, l'imam de Vénissieux, le venimeux imam de Vénissieux, est connu depuis très longtemps et professe sa vision des choses depuis longtemps. Alors pourquoi subitement cette expulsion? Pourquoi cette expulsion? Pourquoi cette interview dans le magazine de Lyon Mag, alors qu'il y avait auparavant un projet un arrêté avait été pris, un arrêté d'expulsion avait été pris le 26 février 2004, et puis l'entretien arrive après, et c'est cet entretien que personne ne remarque, qui ensuite, deux semaines après, va déclencher son expulsion. Il y a quelque chose d'un peu bizarre qu'évidemment l'avocat n'a pas manqué de relever.
Est-ce qu'il conteste l'interview, ses propos qui laissent penser qu'il est favorable à la lapidation des femmes?
Alors, si je reviens bien évidemment à ce qui a été diffusé par Lyon Mag, vous verrez que mon client répond à une question qui n'a pas été posée. J'ai la forte impression que cette interview a été déclenchée par des gens qui connaissaient l'arrêté du 26 février 2004.
D'expulsion qui avait été déjà pris à l'encontre de M. Bouziane et qui était en suspens.
J'ai une forte impression que les journalistes qui l'ont entretenu avec des questions qui sont bien structurées et qui visent à développer les éléments de l'arrêté
administratif. C'est un piège.
Je pense. Je pense sincèrement que on est en présence de beaucoup d'indications qui tendent à laisser penser qu'on est en présence d'une manipulation.
Est-ce que vous reconnaissez, vous, bien qu'étant son avocat, que c'est un imam fondamentaliste ?
C'est quoi un imam fondamentaliste ? Est-ce que c'est quelqu'un qui revendique sa religion ? Lorsqu'il parle des violences conjugales, ce monsieur n'a jamais agressé l'une ou l'autre de ses épouses. C'est quelqu'un qui n'est pas violent. C'est quelqu'un qui ne prône pas cette violence. J'en veux pour preuve que lorsqu'il termine cette intervention, où on lui indique qu'il aurait dans des prêches poussé à la haine de l'Occident, je ne sais pas comment le journaliste a eu cette idée, parce qu'il n'y a aucune référence. On n'explique pas comment. Mon client répond non, car même si je critique l'Occident, je pense qu'il a le droit de le faire. Je demande toujours aux musulmans qui m'écoutent de respecter la loi du pays où ils vivent. Mon client répète à son interlocuteur à plusieurs reprises qu'il est contre le terrorisme. Il y a des principes à respecter, notamment le droit de s'exprimer, la liberté d'avoir des opinions divergentes. C'est ça qui fait avancer la démocratie. C'est vrai que tenir un discours du 14e siècle en France, pays du droit de l'homme, de l'égalité des sexes, et tout, ça me paraît très choquant. Avec des luttes que
tout le monde... Comment vous allez faire pour le défendre alors ?
Ben, le problème, c'est que lorsqu'il tient ce discours, il n'y a pas d'infraction. Lorsqu'il tient ce discours et qu'on l'expulse, c'est disproportionné. La sanction n'est pas proportionnée au fait.
Eh oui, le droit n'est que du droit, et le droit, c'est pas le débat. Le droit, c'est l'application de la loi. Donc, cette judiciarisation du débat, nous prive du débat. C'est aussi simple que ça. Et le maire de Vénissieux, monsieur Gérin, lui, s'entête et signe. Aujourd'hui, le 24 mai, il fait une conférence de presse où il dit c'est une affaire politique, ces gens-là n'ont rien à faire dans notre pays, il serait absurde de céder à ceux qui caressent peut-être un rêve d'islamisation, et il souligne dans son communiqué en gras, l'identité de la France est en question. Point de vue, à nouveau, de Kamel Kaptam, je rappelle, qui dirige la Grande Mosquée de Lyon et qui est président du Conseil du culte musulman de la région Rhône-Alpes.
C'est très facile de dire, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas connu, et je me suis habité à Lyon.
Vous dites ça à propos du maire de Vénissieux?
Oui, habité à Lyon. À Lyon, il avait eu grâce à la mairie un logement qui puisse permettre à toute sa famille de résider ensemble, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'était pas connu. Il a officié dans la mosquée de la Duchère, qui était un quartier qui a eu pour maire le maire actuel Gérard Collomb. Il a eu la visite de l'ancien maire Raymond Barre, de l'ancien maire de Lyon Michel Noir. Donc, ce qui fait que on ne peut pas dire qu'il soit arrivé comme ça du jour au lendemain. Ensuite, lorsqu'il est allé à Vénissieux, il a obtenu un logement donc HLM. Donc, pour avoir un logement d'HLM en banlieue, il faut avoir l'assentiment de la municipalité. Donc, ce qui fait que tout ça, fait qu'aujourd'hui, on assiste à une véritable hypocrisie. Chacun essaie de faire la politique de l'autruche. Il faut être réaliste et être responsable, notamment, et assumer ses responsabilités. Malheureusement, devant cette affaire, tout le monde fait la sourde oreille et semble ne pas découvrir le problème. Je pense que ce n'est pas de cette façon qu'on puisse puissent être responsables et pouvoir affirmer des choses sur lesquelles nous disons aujourd'hui il y a véritablement une machination, il y a une...
Vous vous dites machination, il y a une machination aujourd'hui.
Une machination dans le sens où il y a une utilisation abusive de la situation et du contexte international pour pouvoir mettre encore une fois la communauté musulmane mal à l'aise et dans des situations discriminantes. Aujourd'hui, la France vit certes des moments difficiles, mais nous aussi, nous vivons ces moments difficiles.
Est-ce que vous connaissiez cet imam, est-ce que ça vous semble tenable de dire qu'il est lié à des mouvements terroristes?
On a avancé cet argument. Alors, il fallait peut-être l'interroger pour justement connaître si réellement notre pays était en danger par la présence de groupuscules, de groupes terroristes qui porteraient atteinte à l'intégrité du pays. Je pense que là on a fait une erreur en l'expulsant. On s'est coupé d'éléments d'information qui auraient pu nous permettre de rechercher et de faire condamner ceux qui...
C'est un peu étrange en fait cette expulsion.
Elle est étrange et étonnante. Les explications qu'on nous a données... Ce sont des explications qu'ils nous ont laissées sur notre faim. Moi, j'attends avec impatience qu'ils reviennent. J'attends simplement qu'ils puissent expliquer devant la justice et que nous puissions nous aussi être rassurés, parce que tout ceci n'a fait que jeter l'opprobre sur la communauté musulmane. Nous avons nous aussi besoin de savoir réellement pourquoi cet imam a-t-il tant suscité le courroux de l'administration et pourquoi ne nous a-t-on pas informés depuis fort longtemps, puisque de ces agissements, et pourquoi depuis fort longtemps on n'a pas pris les dispositions nécessaires pour le mettre hors d'état de nuire.
L'imam de Vénissieux est rentré en France cet après-midi. Ses 16 enfants l'attendaient, tout comme la justice française qui lui reproche ses propos favorables au châtiment corporel contre les femmes adultères. Abdelkader Bouziane a évité soigneusement les caméras et les micros des journalistes. Son avocat a tout de même déclaré que l'imam était très heureux de retrouver sa famille et qu'il attendrait sereinement la convocation du juge.
Alors voilà, ça c'était samedi, le 22 mai, retour de l'imam de Vénissieux. Étrange expulsion et étrange retour. L'histoire n'est pas terminée, évidemment. Un éclairage d'un excellent observateur, et j'hésite à dire spécialiste, tellement le mot est douteux maintenant, mais un excellent observateur du monde de l'islam, c'est Bruno Etienne, qui est professeur de sciences politiques et qui est membre de l'Institut universitaire de France, qui enseigne à Aix-en-Provence et qui dirige l'Observatoire du religieux et qui nous explique ce qu'est le salafisme. Ça fait peur, le salafisme. Voilà une explication.
Le mouvement général qu'on appelle salaf, c'est faire une interprétation des textes musulmans à partir de l'enseignement des anciens. Salaf, ça veut dire ça. Or, ce mouvement, dont la grande période a été le début du XXe siècle, avec des grands réformateurs comme Kawakibi, comme Habdo, comme Afrani, comme le cher Ben Badis, etc. C'est tout un mouvement qui était en fait un mouvement relativement moderne, j'allais dire presque progressiste, c'est-à-dire qui voulait se servir des sciences européennes, la sémantique par exemple, l'analyse de contenu, pour essayer de comprendre dans quelles conditions les textes musulmans avaient été constitués. Donc, dans un premier temps, le salafisme est un mouvement qui a eu son rôle à jouer dans le nationalisme arabe, dans les fondements de l'Empire ottoman, qui a été, par exemple, en Égypte, quelque chose qui va très très loin, puisque avec Abdelrazak, par exemple, il demande même la séparation des églises et de l'État, de la religion et du politique. Et puis, ce mouvement a été capté par ce qu'on appelle improprement les wahhabites, c'est-à-dire l'alliance des Bani Saoud et du groupe le plus puritain de l'islam, qui sont en plus dans une des écoles les plus puritaines, les hanéfites. Et aujourd'hui, on appelle salafites des gens, en fait, qui sont soit des salafites jihadistes, c'est-à-dire ceux qui font faire le jihad, soit des salafistes chiaristes, c'est-à-dire ceux qui écoutent les ulamas d'Arabie Saoudite. Moi, je suis désolé, ce ne sont pas des salafistes, ce sont des wahhabites qui se dissimulent derrière ce nom. Parce que comment ça se passe? Un certain nombre de prêcheurs reviennent d'Arabie Saoudite, où ils ont été formés, y compris des jeunes gens, qui ont des téléphones cellulaires internationaux, et qui appellent Riyad à la moindre occasion. Et à Riyad, il y a 5 ou 6 grands patrons. Là aussi c'est compliqué, dont certains sont alliés avec les frères musulmans et dont certains sont ennemis des frères musulmans. Oui, nous avons vu depuis 2 ans, 3 ans progresser ce mouvement, mais c'est corrélé au fait qu'un certain nombre de gens sont intéressés par l'orthodoxie un peu puritaine que leur proposent ces gens-là, parce qu'ils savent que dans la société française, il n'y a plus de réponse à leurs questionnements. Il y a 2-3 ans, quand il y a eu les élections au Conseil français du culte musulman, on a dit « Ah, Sarkozy a mis en place les intégristes de l'UOIF ». Maintenant, on s'aperçoit que l'UOIF est débordé en amont et en aval par tout un tas de groupes qui sont pas intégrationnistes, mais qui sont pour la rupture avec la société. Or, l'UOIF qu'on a accusé, même si c'est un mouvement néo-fondamentaliste, qu'on a accusé d'être intégriste, lui, il est pour l'intégration des musulmans en France. Tandis que les salafistes, ils sont pour le refus d'intégration. Or, les salafistes que nous voyons progresser, mais alors dans quelle quantité?
Ça vous semble minoritaire? Ça vous semble...
Ça fait 0,5% de la population musulmane de France.
Moi, C'est-à-dire que ça vous semble très minoritaire?
Ah non, mais j'ai pas dit que les minorités actives ne pouvaient pas faire des dégâts.
Oui, hein, enfin 0,5, on est quand même loin de...
On est loin, très loin. Je vais vous dire une chose, par exemple...
C'est-à-dire que vous rangez ça parmi l'islam radical?
C'est même pas un islam radical, c'est un islam absolument orthodoxe de type wahhabite.
C'est ça, avec une lecture littérale.
Ah, absolument, absolument.
Est-ce que vous trouvez ça dangereux, vous, comme le pense notre cher ministre de l'Intérieur?
Il n'y a que les connards qui sont dangereux. Moi, ce que je regrette, c'est la connerie. Le reste, c'est des stratégies.
Alors, est-ce que c'en est un?
Alors, je vais vous dire que Monseigneur Lefebvre, c'est un connard? Non. Le point sur lequel je pourrais répondre, ils sont dangereux, c'est qu'ils sont contre l'intégration républicaine des citoyens français de confession islamique. Et si je défends l'intégration républicaine en tant qu'espace de liberté, où l'islam va pouvoir au contraire réouvrir les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire répondre aux défis auxquels les musulmans sont comportés, bien sûr que je préfère à la limite l'UOIF que cela. Mais c'est pas pour moi, ça représente pas un danger. Il faut toujours que vous pensiez que les réponses radicales sont des réponses à des défis et des angoisses. Si on n'avait pas continué à stigmatiser systématiquement les jeunes gens qui étaient intégrationnistes, ils ne seraient pas devenus intégristes.
Et voilà, intégrationniste, intégrisme, une explication de Bruno Etienne. Une autre explication, celle d'Hakim Chergui, qui dirige la mosquée de Rieux-la-Pape, c'est pas très loin de Lyon, il a 28 ans et il donne son éclairage.
Hakim Chergui, vous êtes un jeune responsable d'une mosquée à Rieux-la-Pape, dans la région de Lyon, et vous avez croisé l'imam Bouziane, mais ça s'est mal fini.
On peut pas dire que ça s'est mal fini, en tout cas on peut dire que ça s'est fini. Il s'est trouvé qu'à Rieux, si vous voulez, on a déjà eu des problèmes avec des personnalités dites religieuses, et beaucoup de gens en ont souffert, donc on est très réactifs sur ces questions-là. En ce qui concerne cet imam, il est venu une fois dans notre lieu de culte à l'invitation d'un infidèle.
Il y a combien de temps ça?
De mémoire, ça doit remonter à près de 2 ans. Hein. Et il est venu donc, et puis il s'est très vite accroché avec des gens, somme toute assez jeunes. Et ce qui s'est passé, bon, on lui a demandé de partir manu militari. Il a fait 2 phrases. À vrai dire, comme on le connaissait quand il est rentré, le temps à peine qu'il commence son prêche, et on lui a demandé de partir tout de suite. Ce qu'il a fait d'ailleurs sans sourciller, il est reparti aussi rapidement et aussi silencieusement qu'il était venu.
Est-ce que vous dénoncez, vous condamnez les propos tels qu'ils sont rapportés dans la revue La Lyon Maille sur la lapidation et la polygamie?
Les idées salafistes en général, et bon... exprimé par cet imam-là, mais il y en a d'autres, ou d'autres musulmans en général. Ces idées-là, on les combat sur le terrain depuis des années. C'est ce qui fait d'ailleurs que cette tendance-là est une tendance marginale, qui est très facilement, si vous voulez, distinctive. On les reconnaît même aux habits. C'est parce qu'on a réussi à les marginaliser. Le discours des musulmans de France change, évolue dans le bon sens. Il y a énormément de jeunes musulmans qui maintenant vous disent, grâce à l'islam, je suis et français, citoyen, je vote au nom de mes convictions, et en même temps j'ai une pratique spirituelle. C'est pas impossible. Donc on les a marginalisés. Maintenant, sur l'expulsion en elle-même, autant je dis que ces actions, enfin cette pensée, cette idéologie, je la combats avec toute mon énergie depuis des années, et j'ai pas attendu les médias pour le faire. Et autant l'expulsion, je la trouve condamnable. Parce que nous qui sommes sur le terrain, vous ne nous rendez pas service en fait. Vous lui donnez une vitrine sur son idéologie qui est de premier plan. Et deuxièmement, vous nous forcez à être dans son camp. Je suis persuadé que ces mouvements-là même si parfois ils ont une visibilité à un moment précis, ponctuel, circonstancié, c'est quelque chose qui reste minoritaire, parce que je connais énormément de gens qui sont rentrés dans la religion de cette manière-là, mais qui en sont sortis très vite. Parce que le salafisme, si on s'y intéresse un petit peu, c'est une pratique religieuse qui repose sur ce que moi j'appelle une violence froide. C'est-à-dire qu'on fait tout par opposition aux autres. Et au bout d'un moment, cette opposition-là, on peut plus la tenir. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à 25, 26, 27 ans, sortent de ces mouvements-là, et parfois sortent de manière radicale, comme ils s'y sont rentrés. Ça veut dire qu'ils ne pratiquent plus du tout. Les gens qui participent de cette tendance sont souvent des jeunes qui n'ont pas un niveau scolaire et universitaire encore moins, qui sont souvent passés par les voies de la délinquance, qui ont souvent été connus des services de police, qui ont parfois connu l'islam par exemple en prison, etc. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ces gens-là adhèrent à cette vision-là parce qu'elle est la celle qui leur permet, si vous voulez, de se sentir le plus à l'aise. Parce que dans ce mouvement salafiste, on leur demande pas de réfléchir. On utilise très peu l'esprit critique, raison pour laquelle on en aboutit à des questions: est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Le fait que religieusement des gens en arrivent à dire que manger sur une table est un péché religieux, moi je trouve ça tordant. Je veux dire, bon voilà, il arrive souvent qu'on se rencontre avec des gens qui sont de salafistes et puis qu'il y a des joutes verbales qui aient lieu. Quelqu'un nous demande un jour, on nous dit voilà, une djellaba, c'est une obligation religieuse, et même c'est une tradition, c'est une obligation religieuse. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, sans faute, un pêcheur. Et c'était très marrant parce que la personne qui lui a répondu lui a dit: est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Il m'a dit: oui, je suis sûr de ce que j'avance. Alors il dit: viens, approche-toi. Il a approché, il a pris son étiquette qui était derrière et c'était marqué polyester. Il lui dit que le prophète, il y a 1400 ans, il mettait du polyester. Mais bon, c'était pour vous dire, ça vole au ras des pâquerettes.
Devant l'école, là, quand vous passez ce soir à 5h, vous les voyez?
Moi, le mec,
les femmes tout habillées en noir et tout, des lunettes, des gants, horrible. Il y en a, là, le soir à 5h, vous les voyez devant l'école.
Mais après, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que... Je ne sais pas.
Parce qu'elles sont plusieurs, là, sur les bancs, le soir, on les voit, vous approchez, vous voyez ça, bon, ça me fait quelque chose, meuf. Elles font comme elles veulent, hein, mais nous, on ne peut pas. Il y a des trucs de partout dans les immeubles, maintenant, j'ai vu, il y en a partout. Dans toutes les tours, il y a des trucs pour faire prier. Qu'est-ce qu'ils font dans les tours? Ils prêchent quoi? Nous, en étant citoyens, on est français. Et tout, qu'est-ce qu'on va dire à eux? On peut rien en dire. Maintenant, vous entrez dans les allées ou dans les ascenseurs, vous voyez, c'est marqué la France aux Arabes. C'est-à-dire que les Français les foutent dehors.
Il y a une autre dame qui passe. Bonjour, madame. Vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'imam là, qui a été expulsé?
Ah, vous savez, pour commencer, nous n'avons pas la même religion.
Oui.
Hein? Il a dit que dans le Coran, qu'ils ont le droit de frapper les femmes. Oui. N'est pas, c'est pas ça. Oui. Mais nous, je trouve qu'il ne faut pas frapper les femmes. Vous voyez, on doit tout le respect pour les aux femmes. Même si c'est dans leur Coran, mais il n'a pas à le dire à tout le monde. N'est-ce pas? C'est pour encourager les autres à prendre cette voie. Parce que chez nous, en Afrique, vous voyez, il y a certains qui frappent leurs femmes en Afrique. Ça, ils frappent leurs femmes et ils prennent les femmes comme des objets. Ah, ils n'ont aucun égard pour les femmes, pas de respect pour les femmes. Mais ici, la loi interdit de frapper les femmes. Alors, vous voyez, je crois que les femmes sont plus en sécurité ici parce qu'elles ne sont pas battues par leur mari. Moi, je crois qu'il vaut mieux qu'il rentre chez lui. En tant que premier responsable, quand même, il ne devait pas dire ça.
Sans parler de la polygamie, hein.
Oui.
C'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs femmes.
Moi, je suis contre la polygamie. Je suis contre la polygamie, non. Je n'aime pas la polygamie. Non. Parce qu'on ne peut pas être juste entre les femmes. Quand on est polygame, on doit être juste entre les femmes. Voilà. Enfin, ça dépend. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais quand on est quelque part, on suit la loi. On suit la loi du pays. Si eux, ils n'aiment pas ça, ça ne leur plaît pas. Il faut laisser pour vivre en paix.
Étrange affaire de l'expulsion de l'imam de Vénissieux. Voilà quelques mots, ce que ça fait dire, les réactions, et puis tout ce que ces réactions, évidemment, dévoilent, disent de notre France en travaux. Hein. C'est toujours en cours, hein. Un pays comme celui-là, c'est jamais arrêté. Conclusion provisoire de Bruno Etienne.
Est-ce que, selon vous, ces expulsions sont le signe d'un climat d'islamophobie?
Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une attitude discriminatoire. Non, c'est parce qu'on a de véritables problèmes. C'est les deux. Mais c'est toujours le problème en amont. Pourquoi l'État français, souverain, sous-traite le culte avec des États étrangers? Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on va pas pouvoir expulser des imams français? Imaginez, et c'est le cas, hein, que certains imams complètement citoyens français tiennent les mêmes propos que celui de Vénitieux. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un stade?
Oui.
Je veux dire, comment on fait? Pourquoi la France est le seul pays du monde où le religieux est géré par la police? Les autres États européens, c'est où la justice ou l'éducation?
Donc vous dites qu'il y a une gestion sécuritaire,
absolument, hein, absolument,
de l'islam.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que les imams sont dangereux. Mais moi, je vais vous dire, ce qui est dangereux, c'est l'Arabie Saoudite. Soyons clairs. Ça fait depuis au Yalta, puisque vous vous rappelez que c'est Roosevelt qui est allé faire la première en arabe, on dit Sheikh Abendous, le premier joint venture avec la dynastie des Wahhabites. Ça fait 45 ans que les Wahhabites détruisent tout ce que nous faisons, pardon, si nous adhérons à cette conception de l'Occident, des droits de l'homme, etc., et de la laïcité. Bon, moi ça fait des années que je dis pourquoi on ne rompt pas les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Vous savez, toute la production antisémite, elle est produite par l'Arabie Saoudite en particulier, et diffusée par elle. Tous les matins, les ambassades d'Arabie Saoudite en Europe diffusent des bulletins antisémites. Comment n'arrivons-nous pas à poser la question très claire de la formation des imams qui arrivent de l'étranger, qu'ils viennent d'Arabie Saoudite ou d'Algérie? C'est le résultat d'une politique d'un État qui a aussi cédé au lobbying, pas simplement des pétroliers, mais des constructeurs d'automobiles, etc., qui l'engagent dans une problématique du tout automobile, donc du tout pétrole, mais qu'on ne nous fasse pas de l'angélisme misérabiliste sur l'imam de Vénitieux. L'imam de Vénitieux, c'est, vous voyez, vous mettez une stalactite au-dessus du haut de l'iceberg à 4000 mètres d'altitude de l'iceberg. Non, c'est l'iceberg qui pose problème. Et c'est pas la partie visible de l'iceberg, c'est la partie invisible de l'iceberg.
Je vais te le dire sur un autre ton, encore un plaidos du béton, un de ceux qui a poussé sous les cloisons. Et si à chaque jour suffit sa peine, et si aujourd'hui je fais les miennes, c'est que chez nous la coupe est pleine, celle qui déborde la misère, celle où se noient les masses prolétaires. Quand tes places sont de plus en plus chères, quand tes flics nous font la guerre, quand tes mairies foutent des barrières, et quand ils chassent la mauvaise herbe de leur parterre. Encore une ville fleurie qui pue la merde, quand ils parlent d'insécurité, quand ils serrent les arabes, les noirs pour contrôle d'identité, les mêmes qu'on retrouve à Stock avec le badge sécurité. La vérité, c'est tout ce que je vois qui m'inspire, chaque minute que je vis et chaque goutte que je transpire. Quand je prends conscience que si l'on se fie aux apparences, tout est beau, quel beau tableau l'on cache les carences. Si l'on se fie aux apparences, tout est beau, pur pays de mon enfance qui marque une différence de peau, souligne une différence riche, pauvre. Il y a les bourreaux, leur sous-fifre à la tiraille de suppôts. Y'a du pain, du vin et du fromage. Les miettes on se les bouffe dans nos cages à plusieurs étages. Et de temps en temps on t'envoie la télé, encore un reportage bâclé, on filme les sauvages et leurs démêlés. Pire, on truque ton flash d'info, en fait ils créent l'info pour te faire ton lavage de cerveau. Alors on boycotte tes symboles, tes chaînes polluent, et quand mon quartier est malade ils poussent des paraboles. C'est simple.
Merci à la rumeur qu'on vient d'entendre, merci à tous, merci à Monsieur Gérin, le maire de Vénitieux, Kamel Kaptan de la Grande Mosquée de Lyon, Mahmoud Ebia, l'avocat, Hakim Chergui, Bruno Etienne. Je rappelle un bouquin de Bruno Etienne très clair sur ces questions. Islam, les questions qui fâchent, c'est chez Bayard. Merci à Bouala Mazaoum, Abdelaziz Chambi et Ossine Rami. Un autre bouquin, celui de Xavier Ternisien, qui sort en poche avec une nouvelle préface qui s'appelle La France des mosquées, chez 10-18. Et puis plus d'informations sur le site là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Coyen Guyenne, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de là-bas si j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'était un reportage de Thierry Sharp et c'est Antoine Chao qui réalisait cette émission modeste et géniale. Il est 18h sur Inter. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.